Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Nous suivons la ligne droite ici, la matinale de Radio Courtoisie, et nous recevons, comme chaque mardi, Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, bonjour. Alors, on vient de parler pendant une vingtaine de minutes, je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu, rapport sur l'audiovisuel public, le rapport à l'oncle. C'est le premier sujet dont vous vouliez parler ce matin.
Oui, parce qu'au-delà du contenu que je ne connais pas encore, mais enfin, on sait qu'il prône judicieusement des économies d'échelle, 1 milliard d'économies, et puis des interdictions de conflits d'intérêts, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vois d'abord dans cette publication une victoire politique, et singulièrement la victoire d'un homme, la victoire du député Ciotti, Charles Alloncle. Et donc, je vois à travers cette victoire, je vois l'échec des censeurs. L'échec des censeurs, c'était toute la gauche réunie, la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes, qui jusqu'au bout ont espéré pouvoir interdire ce rapport. Et de l'aveu même de Charles Alloncle, ce rapport qui a été donc voté in extremis à 2 voix près, a été ce vote a été rendu possible par la pression même des réseaux sociaux qui en effet voulaient être partie prenante de cette opération de vérité. Et encore une fois, les réseaux sociaux ici même se sont avérés être une nouvelle force politique, une nouvelle force médiatique, mais une nouvelle force politique. Et donc ça, c'est un élément à prendre dans la vie politique qui est en train de s'écrire, cette nouvelle vie politique qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Et cet échec de la gauche est plus généralement d'ailleurs révélateur de sa propre perte d'autorité. C'est la fin de son hégémonie culturelle. Le rapport à l'oncle, parce qu'il révèle le poids des copinages, des cooptations militantes, des réseaux politiques, d'où la droite est exclue naturellement, devrait d'ailleurs être généralisé dans sa méthode à d'autres citadelles de la gauche, comme l'éducation nationale ou comme la justice, par exemple. Il est temps de mettre fin à des privilèges de caste. Et de ce point de vue, je trouve que cette publication du rapport est éminemment révolutionnaire, car elle signe la fin du privilège de la gauche à s'approprier un certain nombre de pouvoirs à son seul profit. L'opération Vérité de Charles Alloncle me fait penser, moi, dans son principe en tout cas, à la glasnost soviétique qui avait été déclenchée par Gorbatchev. Donc cette opération de vérité sur les mensonges soviétiques qui avait amené à l'effondrement du régime soviétique. Je trouve intéressante, par exemple, dans les propositions d'Alloncle telles que je les ai vues reprises par la presse, qu'il invite aujourd'hui à une plateforme participative citoyenne. C'est un peu une manière, on croirait entendre Ségolène Royal, afin d'inviter les propres citoyens à participer à l'élaboration des programmes et à donner leurs avis, effectivement, sur les invités des chaînes publiques. Je trouve intéressant, effectivement, que Charles Alloncle prenne en considération cette aspiration maintenant démocratique de tout un peuple oublié, c'est ma marotte, à participer au débat, et singulièrement au débat télévisé. Et dans cette affaire, la gauche, c'est le plus intéressant, c'est que dans cette affaire, la gauche apparaît dans sa débâcle idéologique. Elle qui se disait l'héritière des Lumières ne sait plus faire autre chose désormais que de réclamer des censures, des interdits, des têtes à faire taire, sinon à faire tomber. Et son incapacité à défendre, par exemple, Boualem Sansal et Kamel Daoud, ces deux écrivains qui dénoncent le régime algérien et l'islam conquérant, a dit tous ces renoncements à défendre la liberté d'expression, la laïcité, la lutte contre la pensée totalitaire. Et je trouve d'ailleurs que le vide intellectuel est même sidérant quand j'apprends que la municipalité de Nantes, la municipalité PS par exemple, vient de lancer assez fièrement le 22 avril l'opération Plante ton slip. Je n'invente rien, et dans cette opération Plante ton slip, chacun est invité à enfouir sous terre ses sous-vêtements pour tester la vitalité de la biodiversité, et les caleçons exhumés seront exposés en septembre. Donc vous voyez bien quelle est effectivement la débâcle intellectuelle.
On parlait de ce sujet il y a 2 semaines à l'antenne avec Xavier Aymon et Richard Decaize. En effet, on n'était pas passé à côté.
Oui, ça ne m'étonne pas. Et donc, dans ce paysage d'une gauche dévastée, en effet, la droite a théoriquement un boulevard, d'autant que la candidature...
Ah, eh bien, Yvan Rioufol vient de nous quitter de manière tout à fait impromptue, mais je ne doute pas qu'il revienne dans un instant. C'est effectivement un départ quelque part, quelque peu soudain, au milieu d'une phrase, sans doute un problème de connexion ou autre. Mais, chers auditeurs, ne vous en faites pas. Eh bien, on était effectivement sur ce sujet de l'audiovisuel public. On constate que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui vous plaît beaucoup. Et effectivement, nous, je rappelle que à Radio de Courtoisie, dans le fond, ce qui fait notre force justement là-dedans, c'est aussi le fait qu'on soit complètement indépendant, qu'on ne dépende pas même en fait dans le fond des subventions de l'État. On pourrait se dire souvent que c'est quelque chose qui aide, qui soutient, etc. Dans le fond, c'est aussi quelque chose qui rend dépendant, c'est-à-dire que à partir du moment où eh bien, on est subventionné comme le service public, eh bien, d'une certaine façon, on doit se mettre à genoux, soit devant la Macronie, soit devant l'ARCOM, soit devant toutes ces institutions. Et voilà, donc Yvan Rioufol vient de nous rejoindre à nouveau par téléphone. Où en étions-nous, Yvan Rioufol? Ce contretemps m'a quelque peu perturbé.
Oui, on en était à cette candidature de Mélenchon. Mmh. On peut se demander si cette candidature de Mélenchon peut favoriser ou non la droite. Moi, j'y vois, en effet, un atout supplémentaire, tant Mélenchon a rendu encore plus aléatoire une union des gauches avec ce qu'il reste de sociaux-démocrates attachés à la démocratie. Je n'imagine pas, par exemple, que Glucksmann ou Cazeneuve puisse rejoindre désormais la France insoumise, même si j'ai encore un doute sur François Hollande ou Jérôme Gage. Mais en tout cas, Mélenchon est devenu radioactif à son tour, comme a pu l'être en son temps Jean-Marie Le Pen, d'autant que Jean-Luc Mélenchon cautionne cet entrisme islamiste qui est aujourd'hui la bête noire a priori du pouvoir, et en tout cas qui est la bête noire de Bruno Retailleau, qui vient de déposer ce jour au Sénat une proposition de loi pour lutter contre l'entrisme islamiste. Mais lutter contre l'entrisme islamiste, cela veut dire maintenant lutter contre la France insoumise. Donc je reconnais bien que Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui a travaillé son projet, et d'ailleurs il est parmi les plus brillants des orateurs, mais il est le symbole de ce qui est devenu cette gauche dans son sectarisme, sa violence, son antisémitisme. Et Mélenchon, qui n'a pas voulu céder sa place, et parmi les candidats les plus répulsifs auprès de l'opinion, puisque un sondage du Figaro montre que 16% souhaitent que, ils ne sont que 7% à souhaiter sa candidature. Et en fait, et c'est là où je voulais en venir, c'est que la droite a comme défi aujourd'hui d'essayer de recueillir tous les orphelins de la gauche qui constatent que le camp du bien ne sait plus défendre ses valeurs traditionnelles.
Mais Yvan Rioufol, est-ce que la droite, et puis même Marine Le Pen en son temps en récupérant le vote ouvrier, est-ce que la droite n'a déjà pas fait le plein auprès de la gauche, si je peux m'exprimer ainsi?
Je ne pense pas. Pour écouter ceux des orphelins de la gauche qui effectivement se disent en recherche d'un havre, ou en tout cas d'un refuge, je pense qu'il y a encore auprès de cet électorat-là des voies à prendre, et d'autant plus que maintenant c'est la droite qui est dépositaire des grands sujets, que sont des grands thèmes que sont la liberté, la laïcité, la République et la démocratie. Et donc je trouve même que c'est la droite souverainiste et patriotique qui répond le mieux, dans le fond, celle qui est qualifiée de fasciste, cette gauche qui répond le mieux à cette aspiration. Et pour aller plus loin encore, il me semble qu'il reste à la droite, qui est pantouflarde par nature, à devenir dépositaire d'une nouvelle radicalité, d'une révolution. Ce mot qui jusqu'alors est affilié à la gauche, et que j'ai déjà expliqué dans des chroniques et à travers mon dernier livre sur la révolution des oubliés, que cette révolution est aujourd'hui une révolution qui appartient à la droite. C'est la révolution du bon sens. C'est la révolution du réel, c'est la révolution conservatrice qui oblige les élites à se rapprocher du peuple ordinaire. Or, cette révolution oblige à rompre avec le système actuel, ce que fait Mélenchon, mais ce que ne fait pas encore tout à fait, d'une manière affichée, la droite elle-même. Et donc, il manque encore à cette droite un travail abouti de réflexion pour ce qui pourrait être une France retrouvée, renaissante, derrière des frontières et une identité. Et donc, c'est pour cela, et j'entendais par exemple Arnaud Montebourg, qui fait partie de ces orphelins de la gauche qui se disaient pour l'instant errants et sans domicile fixe, si je puis dire, qui avaient des réticences encore avec cette sorte de posture moderne à considérer que le Rassemblement National était aujourd'hui un parti qui pouvait être un parti refuge, dans la mesure où ils voyaient dans ce Rassemblement National encore des reliquats de racisme. Je trouve que ce raisonnement est un raisonnement facile qui me fait comprendre que la droite a encore elle-même, d'ailleurs, un effort à faire afin de consolider sa doctrine et afin de devenir vraiment une force alternative, dans le fond.
Dans le fond, justement, un petit dernier mot, peut-être il nous reste deux minutes, Yvan Rioufol. C'est François Ruffin qui, effectivement, de son côté, a soulevé d'un tollé à gauche en expliquant que lui n'était pas tout à fait favorable à l'immigration de travail.
Oui, c'est aussi intéressant, en effet, de voir que au cœur même de la France insoumise, vous avez un mouvement souverainiste, alors qu'est un mouvement contradictoire, parce que le mouvement souverainiste, il doit être cohérent avec lui-même, est un mouvement souverainiste qui rétablit les frontières, en effet protectionnisme, et un mouvement souverainiste qui établit ses frontières également avec l'immigration. Alors, si j'ai bien compris Ruffin, malgré tout, sa doctrine n'est pas aussi claire que ça. D'ailleurs, si sa doctrine est aussi claire que ça, Ruffin n'aurait plus de raison d'être, et il viendrait rejoindre les rangs de la droite souverainiste. Oui. Il y a naturellement encore une ambiguïté, mais il est intéressant de voir qu'en effet, la question souverainiste, qui de mon point de vue sera au cœur des prochaines présidentielles, est une question qui taraude maintenant également une partie de l'extrême-gauche. Mais ne nous leurrons pas, la France insoumise elle-même a théorisé effectivement cette société ouverte, cette nouvelle France, dans le fond cette France islamisée, qui était exactement le... Et donc Ruffin faisait partie de cette extrême-gauche-là, même s'il s'en est un peu éloigné de Mélenchon. Et donc c'est cette vision d'une France effacée qui donne toute légitimité maintenant à la droite souverainiste pour s'affirmer comme étant effectivement le refuge à tous ceux qui sont maintenant déboussolés par cette débâcle idéologique de la gauche. Oui.
Mais écoutez, on va finir sur cette note d'espoir. Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous ce matin par Zoom et par téléphone. Et
oui,
on vous retrouvera par Mons et par Vaud la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Voilà.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et comme chaque mardi, j'ai le plaisir de laisser l'antenne à Richard de Sèze qui va interroger Mériadec Raffray sur la question des budgets de la défense.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre et bonjour Mériadec Raffray.
Bonjour Richard.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Et au cas où ça aurait échappé à certains de nos auditeurs, dont je plaisante, évidemment, le monde est en guerre et les budgets militaires sont en train d'augmenter dans le monde entier. Les dépenses militaires croissent, que Trump les exigeait de la part des Européens ou pas. Autrement dit, tous les pays sont en train de se réarmer, même la France, c'est dire. Et justement, la France est en train de voter donc une nouvelle loi de programmation militaire.
C'était le discours de politique, les discours politiques de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, hier après-midi à l'Assemblée nationale, pour défendre la copie qui est en fait la copie d'Emmanuel Macron, puisque ce que la ministre a défendu hier après-midi dans l'hémicycle, c'est la mise en musique des annonces faites par Emmanuel Macron le 14 juillet dernier, qui avait annoncé un sursaut supplémentaire financier pour les armées compte tenu, je reprends les termes, du durcissement en fait des crises dans le monde, ce qui effectivement, cher Richard, n'avait échappé à personne, ou en tout cas pas à nous. Donc la question est de savoir cette actualisation de cette... Alors qu'est-ce que c'est que la loi de programmation militaire? En fait, c'est le crantage juridique et législatif d'une trajectoire d'à peu près de 10 ans, sur 10 ans, des crédits planifiés pour les armées, voilà, pour faire simple. Et alors, vous allez me dire, ce crantage juridique et législatif, il est théorique? Oui, effectivement, mais enfin, il est déjà quand même... cela donne des perspectives et surtout, ça permet aux militaires ensuite... et aux militaires et aux industriels ensuite de planifier en fait toutes les grandes commandes, les gros objets militaires sur plusieurs années. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers de ces sujets-là qu'un porte-avions c'est 10 ans, rien que la construction, que c'est également l'horizon d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, enfin ce sont des très gros objets. Et que donc autant les industriels que les opérationnels ont besoin de visibilité. Évidemment, et jusqu'à 2017, pour faire simple, cette planification était quasiment remise en cause chaque année, puisque à l'époque, et jusqu'à 2015, pour être très précis, jusqu'à l'intervention de François Hollande, en fait, ces budgets servaient en quelque sorte de variable d'ajustement pour les trous, les déficits publics qui se creusaient d'année en année. Et le choix était tout, les priorités, enfin le choix était toujours fait de finalement de rapiécer les trous des comptes sociaux, et, etc., en puisant dans ces budgets dont on savait très bien que les militaires n'iraient pas descendre dans la rue pour, pour négocier et pour protester. Depuis 2017, et ça, il faut le mettre au crédit d'Emmanuel Macron, même si j'ai l'habitude d'ajouter tout de suite qu'Emmanuel Macron n'a pas eu vraiment le choix parce que les événements ont commandé pour lui. Depuis 2017, cette programmation budgétaire est respectée non seulement à l'euro près, quasiment, mais en outre, elle a subi un certain... Elle a été... plusieurs fois actualisé, et là nous discutons donc de cette dernière actualisation.
Alors actualisé dans un sens où il y a une revalorisation constante du budget consacré...
En positif.
Voilà.
En positif. Et donc là, le Parlement va devoir, dans les semaines qui viennent, se prononcer sur la copie du gouvernement qui octroie 36 milliards d'euros supplémentaires à la période qu'il reste encore de cette loi de programmation militaire qui courait de 2023 à 2030. Donc nous sommes dans la période 2026-2030, c'est ça l'enjeu. Et 36 milliards, c'est très important. Pour donner un ordre d'idée, le budget en 2027, donc l'année prochaine, qui doit donc intégrer les suppléments qui étaient déjà prévus, plus les suppléments des suppléments qui vont être votés normalement dans les semaines qui viennent, passera donc à 63,3 milliards d'euros, ce qui est mathématiquement un doublement du budget annuel octroyé aux armées en 2017. Donc, vous voyez, 2017-2027, 10 ans, on double le budget, et l'effort est réel, on ne va pas tergiverser, ça a beau être Emmanuel Macron, l'effort est là. Et en 2030, évidemment, on va revenir sur ce sujet-là, donc après la fin du mandat d'Emmanuel Macron, du deuxième quinquennat, la loi de programmation militaire inscrit un budget annuel pour 2030 de 76,3 milliards d'euros. Voilà ce que propose aujourd'hui le gouvernement. Alors, essayons de... Vous savez, quand on se regarde, on se fait peur, quand on se compare, parfois on se rassure, mais parfois on s'inquiète encore plus. Donc essayons de faire une petite comparaison pour voir... donner une objectivité en fait de ce réarmement, en tout cas financier, pour la défense. Pour la première fois en 2027, effectivement, le budget de la défense sera supérieur à celui du mammouth. Le mammouth, je parle de l'éducation nationale, qui était un gouffre financier, qui était le premier budget de l'État pendant très très longtemps, et dont l'efficacité n'est désormais plus à démontrer. Évidemment, je plaisante, c'est une ironie. L'argent part dans les puits sans fond, dans les trous sans fond, et pendant ce temps-là, le niveau d'éducation nationale s'effondre. Alors, c'est historique, mais en même temps, et c'est le premier bémol à cette remontée en puissance, ces 63,3 milliards d'euros seront toujours inférieurs à l'autre budget dépense de ligne de dépense de l'État, qui est la charge de la dette, qui elle explose comme jamais et qui est aujourd'hui supérieure non seulement au mammouth, mais à celui du mammouth, mais également à celui de la défense. Voilà, donc ça relativise, si vous voulez, le sursaut. Et puis peut-être un dernier indicateur, puisque nos gouvernements ont l'habitude de faire du benchmark, pour parler français, puisque nous sommes
parangonnage.
À Royaume-Courtoisie, donc de la comparaison avec ses voisins allemands. Et Emmanuel Macron, qui adore l'Allemagne, se tourne souvent vers l'Allemagne. Et bien l'Allemagne, elle, en 2026, c'est-à-dire dès cette année, affiche un budget strict de 82,2 milliards d'euros pour sa défense. Et en réalité, c'est un budget qui atteint 108 milliards d'euros annuels si l'on y intègre le quota en fait annuel du fameux grand emprunt débloqué par Friedrich Merz, le chancelier de la droite libérale allemande, pour accélérer le réarmement français, 100 milliards d'euros. Et en fait, chaque année, une quote-part est ajoutée au budget de la défense pour accélérer le rééquipement des forces allemandes. Et je m'empresse d'ajouter et de souligner que si on prend juste les 82 milliards pour la défense allemande, dans ces 82 milliards, il n'y a pas la part que la France, elle, consacre pour sa dissuasion nucléaire, puisque l'Allemagne n'a pas de dissuasion nucléaire. Donc c'est un 82 milliards qui vont directement dans la poche des armées conventionnelles. Et donc en fait... pour que la comparaison soit égale, il faudrait soustraire du budget français 63,3 milliards d'euros en 2027 la part qui va à la dissuasion. Alors après, je vais expliquer pourquoi le calcul est un peu faussé, mais si vous voulez, pour pousser un peu la comparaison, en fait, aujourd'hui, alors la dépense consacrée à la dissuasion est un élément classifié, mais on sait, et les documents budgétaires l'affichent, donc je peux reprendre ce chiffre, que c'est à peu près 13% de la dépense totale. Vous enlevez 13% de 63 milliards et vous avez à peu près le coût annuel consacré à la dissuasion, sachant que la dissuasion est dans une période de modernisation complète. Et donc évidemment, ce budget est particulièrement important. Modernisation des vecteurs, c'est-à-dire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, puisqu'on a lancé en fait la troisième génération de ces monstres des mers. Modernisation de ces armes, les fameux missiles M51.1, 2, 3, etc. Emmanuel Macron a également annoncé la multiplication du nombre de têtes, c'est-à-dire les ogives nucléaires, l'arme. L'arme en fait ultime. On sait que la France aujourd'hui a un peu moins de 300 têtes et ce nombre va être augmenté selon un pourcentage qui reste classifié. Voilà, et puis on peut aussi parler du missile emporté par les forces aériennes stratégiques avec les Rafales, qui lui aussi sera modernisé. Et également, on va lancer un missile hyper véloce pour pouvoir pénétrer les défenses aériennes. Bon, bref, tout ça pèse évidemment dans la balance, mais je nuance à nouveau, puisqu'il faut vraiment être précis, tout ce qui irrigue cette dissuasion nucléaire, comme le porte-avions de nouvelle génération, qui va emporter la FANU, la FANU, ce sont en fait les rafales embarquées par le porte-avions qui peuvent emporter eux-mêmes je suis en train de chercher son terme, l'ASMP, voilà, le missile moyenne portée nucléaire, et qui est une composante qui n'est pas permanente puisque le porte-avions doit aller à la mer. Donc ce porte-avions lui-même qui sert à la fois à la diplomatie navale, à créer une supériorité aérienne et navale à un instant donné, comme il le fait en Méditerranée, enfin bref, qui sert à un certain nombre de missions qui ne sont pas liées à la dissuasion, fait partie en fait de ces dépenses, intégrées dans ces dépenses. Donc voilà, enfin bref, voyez que ce sursaut, il est réel, il est important, mais finalement il demeure relatif, et c'est ce qui fait d'ailleurs dire à Laurent Jacobelli, qui est le porte-parole des questions de défense pour le Rassemblement National, qui donnait une conférence de presse hier à l'Assemblée Nationale, cette copie d'Emmanuel Macron était insincère depuis le départ, puisqu'il disait qu'il aurait fallu porter directement ce budget au poids de forme, une expression employée par le Premier ministre, ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, il y a quelques mois, au printemps dernier. Il disait le poids de forme des armées, c'est 100 milliards d'euros en réalité, pour trancher le hiatus, le débat entre la cohérence et la masse. En 2023 et 2024, quand il s'est agi effectivement de muscler davantage le budget des armées, le débat était le suivant. Les crédits suffiront-ils seront-ils à la hauteur soit du rétablissement de la cohérence de notre modèle, je vais expliquer, soit à la hauteur d'un véritable sursaut qui est celui de la masse versus ce qui se passe en Ukraine.
Autrement dit, juste pour le résumer, en tout cas apporter un élément, soit on décide d'avoir une armée qui n'est plus échantillonnaire, dire qui couvre l'ensemble de la gamme possible, mais avec très peu d'éléments, soit on décide qu'on a enfin une force de projection suffisante pour intervenir véritablement sur les théâtres d'opérations extérieures.
Et il y a un entre-deux, c'est-à-dire une armée possédant toute la panoplie, on conserve une armée possédant toute la panoplie d'une grande puissance capable effectivement de peser dans les conflits mondiaux. Et à ce moment-là, il fallait d'urgence rétablir la cohérence de ce modèle complet, à savoir, et je vais prendre un exemple concret, parmi les 36 milliards d'euros qui seront votés normalement, je pense, par les parlementaires, une partie d'entre eux servira par exemple à mettre en cohérence, à mettre au niveau 140 chars de combat. On aura 140 chars de combat, ce qui est très peu, hein, mais on ne les a pas aujourd'hui, qui seront bons de guerre, pour reprendre l'expression des militaires, savoir prêts à aller au combat, avec tout ce qu'il faut. Les équipements, l'électronique, la protection contre les drones avec des cages posées sur leurs tourelles, et les soutes pleines de munitions. Mais il manquait jusqu'à présent au régiment de chars de combat un outil indispensable, à savoir des citernes pour emporter le carburant en même temps que l'évolution des chars, si vous voulez, que l'avancée des chars. On avait une citerne par régiment, alors qu'en fait, il faut une citerne par escadron pour que ces escadrons, c'est une dizaine de chars, une quinzaine de chars, je crois, pour que ces escadrons puissent continuer à progresser. Donc, on avait le matériel, on avait peut-être aussi les munitions. Au passage, cette actualisation prévoit 53% d'augmentation des crédits pour recompléter les stocks, autrement dit.
Il faut quand même le dire que voilà. L'armée française, en fait, a travaillé avec du matériel où il y avait un tiers du matériel qui était inutilisable parce qu'il était en réfection, un tiers du matériel qui était utilisé et un tiers qui était potentiellement utilisable, sauf que il n'y avait pas de carburant et un jour, il n'y avait pas de munitions. Donc, on
aura sans doute les munitions, mais vous avez l'outil, l'équipement, vous avez les munitions, vous avez les hommes, mais vous n'avez pas le carburant. Donc voilà, ça c'est la cohérence, voyez. Alors, c'était la cohérence. Et puis, le débat qui avait été enterré, on avait tranché, on avait dit, en 2023, on avait dit, et je pense que, compte tenu de la feuille de route, puisqu'on était passé, je reviens en 2023, quand on a refait la loi de programmation militaire, le débat c'était 413 milliards ou 453 milliards. Finalement, on a tranché à 413. Et donc on a dit, les militaires ont dit, à ce prix-là, on ne peut pas augmenter la masse, donc on privilégie la cohérence. Je pense que c'était une...
Privilégier la cohérence, c'est-à-dire faire en sorte que ça puisse marcher.
Voilà, que ce qu'on a fonctionne, soit au niveau et puisse fonctionner, c'est-à-dire qu'on ait les pièces de rechange, le carburant et les munitions avec l'outil. Voilà. Je pense que c'était une sage décision. Et Laurent Jacobelli dit, en 2023, on aurait dû aller à 100 milliards par an, c'est-à-dire c'était beaucoup plus que 453 milliards au total, pour rétablir la masse. Et c'est aussi la critique que l'on peut faire. Alors, pour résumer, aujourd'hui, les spécialistes disent, avec ces 36 milliards, on va rétablir vraiment cette fois la cohérence. C'est-à-dire, ce ne sera pas de l'enfumade comme en 2023, parce qu'il fallait payer le coût de l'inflation, il fallait payer le coût des factures en retard, et en fait, tout...
Il y avait plus de 8 milliards d'euros de factures en retard.
Voilà, de cavalerie financière, et donc, en fait, le sursaut, moins toutes ces contraintes qu'il fallait régler, en fait, le sursaut était très, très, très faible. Et important, mais très faible. Et aujourd'hui, en fait, on va sans doute régler les problèmes de cohérence, mais évidemment, notamment si on le compare avec nos voisins allemands, en réalité, on a encore un train de retard, un métro de retard, ou ce que vous voulez de retard. C'est en fait la grande faiblesse de cette copie. Alors évidemment, hein, encore une fois, il faut saluer le verre à moitié plein, mais il faut dire aussi que pendant ce temps-là, et vous l'avez dit en introduction, le monde se réarme. C'est pas l'Allemagne, c'est pas tout le monde se réarme. Et c'est le gros point faible en fait, c'est la problématique de masse. Et d'ailleurs, du Rassemblement National au LR, en passant par les centristes, tous les experts sérieux et non idéologues à l'Assemblée nationale sur ces questions-là sont tous à peu près d'accord sur ces absences en termes de masse. Et d'ailleurs, le premier à l'avoir dit, c'est Sébastien Lecornu au printemps 24 qui disait les choses dans la limite de sa fonction. Et pour essayer de donner quelques idées à nos auditeurs, si vous voulez, prenons les trois armées. La copie, la révisée dont les parlementaires vont discuter à partir depuis hier. Donc c'est priorité aux munitions, priorité aux drones, priorité à l'espace avec des systèmes qui vont permettre de mieux protéger nos systèmes qui sont déjà dans l'espace. C'est également un effort important pour lancer le standard F5 du Rafale, c'est-à-dire le Rafale qui équipera le porte-avions de nouvelle génération, j'en ai parlé. C'est un effort également important pour l'armée de terre pour lui redonner ses capacités de porter le feu dans la profondeur, notamment avec ses canons César, mais aussi avec ses lance-roquettes unitaires, les fameux LRU, qui permettent de tirer à plusieurs centaines de kilomètres. C'est également, par exemple, des systèmes qui permettront aux armées d'assurer la communication de leurs forces, quel que soit le terrain, etc. Je passe. Maintenant, les absences. Et Franck Giletti, qui est le spécialiste pour le Rassemblement national de ces questions-là, l'a dit aux côtés de Laurent Jacobelli hier. Et globalement, quelqu'un comme Jean-Louis Thiriot, par exemple, chez les LR, qui est l'ancien ministre chargé du monde combattant éphémère, quelques mois, en fait, est quelqu'un de très sérieux et suit ça de très près. Et peu ou prou, et tout le monde est d'accord. Prenons l'armée de l'air. Il manque, selon les experts, entre 20 à 30 rafales aujourd'hui à l'armée de l'air si l'on veut être en cohérence avec ces nouvelles missions et en particulier avec l'augmentation du nombre de têtes nucléaires. C'est-à-dire que si l'on veut dissuader et on veut mettre en œuvre cette fameuse dissuasion avancée qu'a annoncé le président de la République lors de son discours sur la dissuasion nucléaire le 2 mars dernier à Lille-Longue à Brest, il va falloir augmenter le nombre de rafales qui emportent le fameux ASMP, c'est-à-dire le missile air-sonde moyenne portée équipé de la tête nucléaire qui peut pénétrer à plusieurs centaines de kilomètres une fois qu'il a été lancé pour envoyer le dernier avertissement, si vous voulez, stratégique, avant l'ultime recours qui est le missile M51 emporté par nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est un exercice de pénétration des défenses ennemies pour que ces rafales de la dissuasion nucléaire soient en position pour lancer leurs missiles sur des cibles de moyenne portée et envoyer ce dernier signal avant l'apocalypse. Eh bien, c'est une quarantaine d'appareils. Voyez. Et donc, si on augmente le nombre de têtes, il faut augmenter le nombre d'appareils et la cohérence. Et on sait que ces missions d'avertissement stratégique seraient absolument, comment dirais-je, très peu d'appareils, on reviendrait en réalité. Donc c'est très important de les avoir. Voilà pour l'armée de l'air, par exemple. Alors parlons maintenant de la marine. La marine, on voit aujourd'hui le retour sur mer du combat naval, du déni d'accès. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec les blocus maritimes. Les marines de guerre n'ont jamais été aussi sollicitées et aussi stratégiques dans les conflits actuels.
Et en même temps, aussi peu nourries, en fait. Il y a très peu de bâtiments.
Voilà, c'est exactement le sujet. C'est qu'on est resté à un format de navires de premier rang de haute mer, pour le combat en haute mer, d'une quinzaine d'unités. Et en fait, pour être précis, on a 8 frégates de pointe, les fameuses FREM, frégates multimissions, qui sont des bâtiments assez incroyables, qui sont à la pointe de la technologie, notamment pour la détection sous-marine. On en a 8 et elles sont complétées par des frégates légères furtives et puis des frégates de défense aérienne qui, elles, sont des monstres qui sont en capacité de créer des bulles de déni d'accès aérien de plusieurs centaines de kilomètres. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mais on a aussi ces fameuses petites FDI, ces petites frégates qu'on appelait Go-In, qui sont des modèles réduits des FREM qui avaient été produites par les chantiers de Naval Group à Lorient en vue de l'exportation, puisque en fait, à partir de 2000, on avait imaginé, à l'époque on était visionnaire, un modèle d'une vingtaine de frégates de premier rang. Et puis les budgets se réduisant comme peau de chagrin, cette vingtaine a terminé à 8 et en contrepartie, on a imaginé un bateau moyen, que nos industriels vendraient à l'étranger, ce qui nous rapporterait de l'argent, diminuerait le coût unitaire de ces unités et on pourrait peut-être, nous, à ce moment-là, remonter en nombre. Bon, aujourd'hui, on a une quinzaine de frégates et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait être au-delà de 18, voire même 21 frégates pour pouvoir, mettre à la mer des plots là où la France a des enjeux et veut compter. L'Atlantique Nord, la Méditerranée, l'océan Indien et l'océan Pacifique, ça fait 4 plots. Vous avez des bâtiments aujourd'hui, le port de Toulon, qui est la base de la de la force navale de surface est vide, disait Franck Giletti, ce qui illustre bien les sollicitations extrêmes en fait de nos équipages et de nos marins. Et puis, je vois l'heure qui passe, parlons évidemment de l'armée de terre. On voit aujourd'hui, depuis 3 ans ou 4 ans en Ukraine, l'importance de la masse terrestre dans cette guerre en fait de position et d'attrition, c'est-à-dire que chacun des adversaires ne cherche plus vraiment à manœuvrer, mais à détruire lentement et progressivement l'autre dans une course en fait à la résistance stratégique. C'est ça le sujet aujourd'hui. Donc il faut être capable de régénérer le matériel, de régénérer les hommes. Et aujourd'hui, les experts disent qu'il manque à peu près une dizaine de régiments. Écoutez bien, une dizaine de régiments pour que la France soit en mesure, comme l'a expliqué le général Pierre Schill, le patron de l'armée de terre, de mettre en ligne au coup de sifflet, en cas de problème, notamment à l'Est, l'équivalent d'un corps d'armée, 60 000 hommes. Il faut agréger en fait à ces 60 000 hommes un certain nombre de matériel, de matériel et d'équipement qui permettent en fait à ce plot de 60 000 hommes de pouvoir durer, notamment tout ce qui concerne, donc on en a parlé, la logistique, mais aussi la guerre électronique, les questions de frappe dans la profondeur, le génie, par exemple les problèmes de pont flottants pour pouvoir franchir des coupures humides, comme disent les militaires, etc. etc. On sait aujourd'hui, on a à peu près calculé qu'il manque une dizaine de régiments. Voilà, voilà aujourd'hui j'ai essayé d'établir
grande image,
une photo.
Et on se rend compte de deux choses. D'une part, qu'il y a des leçons qui ont été tirées des conflits récents. Le poids porté sur les drones, voilà, parce qu'on parlait de la surveillance du champ de bataille quand j'étais petit et que je faisais mon service. Mais voilà, ce n'était pas les drones qu'on voit aujourd'hui avec cette capacité.
Et évidemment, les drones. Effectivement.
Voilà. Et donc, ça, c'est une nouveauté. Et on voit bien que l'accent est mis sur ces nouvelles modalités de la guerre, qui nous renvoient d'ailleurs plutôt à 14-18 qu'à une quelconque guerre du futur, mais il y a quelque chose aussi qui est évident.
14-18, c'est que guerre innovante s'il en est.
Absolument. D'ailleurs, le CNRS est né du bureau de recherche militaire de 1915, qui a lancé véritablement cette espèce d'innovation étatique qui, à l'époque, a été extrêmement fructueuse. On voit aussi que la France avance petitement et peut-être, il nous reste que 2 minutes, peut-être parce que Emmanuel Macron continue à penser à une armée européenne, peut-être que la France est encore à la traîne de cette idée d'une défense européenne.
Vous avez raison, c'est un point majeur. On sent évidemment qu'Emmanuel Macron est cohérent avec sa pensée depuis le début, depuis 2017, c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché l'idée de l'armée européenne. Ça s'appelle aujourd'hui cette coalition des volontaires face à l'Ukraine, mais tout ça c'est la même chose, c'est pour faire vivre cette armée européenne. Alors les militaires parlent de européanisation de l'OTAN, mais tout ça, cette idée-là n'est pas morte. Et d'ailleurs, c'est le point sur lequel je voudrais terminer, la droite parlementaire, depuis le Rassemblement national jusqu'au LR, est à peu près en phase. Il y a un point majeur qui les dissocie, c'est la question européenne et notamment la question de l'industrie européenne. Ça, c'est vraiment important. Et là, il pourra y avoir des débats en 2027. Les LR sont très en phase avec la montée en puissance de l'Europe sur la mutualisation des budgets d'armement pour faire remonter en puissance en fait les armées européennes. Et le Rassemblement national, lui, est très très en retrait par rapport à ça. Il dit qu'il faut aujourd'hui laisser tomber des programmes comme l'avion du futur, le SCAF franco-allemand qui a de l'eau dans le gaz, le fameux char du futur également franco-allemand, un truc de Macron qui fonctionne pas non plus, mais il ne souhaite pas non plus aller de l'avant concernant ces budgets mutualisés. Il dit qu'il donne la priorité aujourd'hui à des budgets franco-français pour financer la remontée en puissance de la base industrielle et technologique de défense. Et ça, je pense que c'est un point majeur qui sera en discussion et que les candidats à la présidentielle de 27 devront clarifier, car les questions de défense seront, à mon avis, au centre des discussions de la campagne présidentielle.
Merci beaucoup, Meredith Raffray, et à la semaine prochaine.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous poursuivons cette matinale avec Victor Aubert. Victor Aubert, bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur d'Academia Christiana. Alors, après avoir évoqué le canon français il y a 2 semaines, vous souhaitez nous parler ce matin d'une expérience culinaire un petit peu différente qui vous a conduit à Paris, mais aussi en Asie.
Oui, tout à fait, cher Alexandre, chers auditeurs. Nous avions évoqué la polémique autour du canon français. Vous savez, ces banquets que la gauche qualifie d'extrême droite. Cette semaine, j'aimerais partager avec vous l'un de mes caprices culinaires du 1er mai. Alors, peu d'entre vous, je pense, connaissent ma passion pour les Indes, mais j'étais de passage à Paris et j'ai pas pu m'empêcher de faire un saut dans un de mes restaurants indiens préférés, le Saravana Bhavan, qui est situé au cœur du quartier qu'on appelle la Little India, près de la gare du Nord, rue du Faubourg Saint-Denis.
Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette enseigne, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est une simple adresse de quartier
Alors, pas du tout, cher Alexandre, non, c'est une véritable institution, puisque ça a été fondé en 1980 à Chennai, donc la ville qu'on appelait autrefois Madras, et l'enseigne est devenue donc, le leader mondial de la restauration végétarienne en Inde. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de cette conquête, hein, la chaîne compte aujourd'hui plus de 100 succursales répandues dans 24 pays, et chaque jour, elle sert environ 120 000 clients à travers le monde, et propose un menu impressionnant avec 370 plats faits maison.
Oui, c'est un succès colossal, mais comment parviennent-ils à maintenir cette authenticité à une telle échelle, très loin de leur base de Chennai?
Et bien, c'est là que le modèle est assez fascinant, parce qu'en 1992, le fondateur s'est paradoxalement inspiré des méthodes des fast-food, donc de McDonald's, pour standardiser ses processus, mais finalement ici, la logistique sert une certaine forme, on pourrait dire, de tradition culinaire, puisque leur secret, c'est de ne pas simplement exporter des recettes, mais d'exporter leurs propres chefs qui sont formés de manière intensive dans leur centre de formation en Inde. Et donc, c'est une arme, on pourrait dire, de soft power culinaire assez redoutable.
À laquelle vous succombez, visiblement. Et que mange-t-on concrètement dans cette cantine? Vous parliez d'un plat unique.
Oui, tout à fait. Donc, c'est le fameux thali indien. Alors, il ne faut pas voir ça comme un simple plateau repas. C'est une tradition dont les règles de dressage remontent à l'Inde ancienne et sont décrites dans les textes ayurvédiques. Alors, philosophiquement, le thali, ça vise à un équilibre parfait qui intègre les 6 saveurs ayurvédiques, donc le sucré, le salé, l'aigre, le piquant, l'amer, l'astringent. Donc, on est à des années-lumière, on pourrait dire, de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire du gras, du sucre et de la malbouffe industrielle.
On comprend mieux votre réflexion, mais quel est le lien politique que vous y voyez pour la France? Parce que là, j'y suis pas encore.
Et bien, tout ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit, comment se fait-il que nous, les Français, qui nous orgueillissons souvent d'avoir la meilleure gastronomie au monde, ne sommes-nous pas capables de rivaliser sur ce terrain la cuisine simple, populaire et enracinée? Les Italiens ont la pizza, les Turcs le kebab, tout ça reste des marchés extrêmement massifs en 2026, les Indiens développent des chaînes partout à travers le monde. Et je crois qu'un peuple qui ne consomme plus que des ersatz industriels qui ne renvoient en rien à son passé est un peuple qui ne croit même plus en lui-même. Nous sommes ce que nous cuisinons. Au fond, il y a ici 2 anthropologies qui se dessinent. D'un côté, celle de l'uniformisation industrielle, et de l'autre, celle des identités qui s'enracinent dans un terroir.
Alors justement, Victor, cette uniformisation semble portée par ce qu'on appelle l'ubérisation. Pourquoi favorise-t-elle ce que vous appelez le triptyque, sucre, gras et mou?
Alors, il y a une part de questions logistiques qui dictent aussi la diététique. L'ubérisation, ça favorise les aliments qui voyagent bien, qui s'assemblent vite, qui vont flatter nos instincts primaires pour générer de la dopamine, hein, le burger, le tacos, la pizza. Et donc, c'est justement ce stade un peu ultime de la mutation qui est révélée par Jérôme Fourquet. Hein. McDonald's a redessiné la géographie de ce qu'on appelle la France moche autour des ronds-points, et Uber Eats en est en quelque sorte le prolongement comportemental. Hein. Le citoyen devient le consommateur isolé qui exige tout de suite, et cette société du caprice ininterrompu, hein, elle est actée par Deliveroo qui passe au format H24 dans nos villes. Ce modèle s'étend même au trafic de drogue, avec la fameuse expression le Uber shit, prouvant justement ici une dégradation profonde de notre rapport à la fois à l'attente et à l'effort.
C'est une question à la fois de souveraineté et de lien social, donc.
Absolument, parce que nos restaurateurs perdent leur indépendance en venant dépendants d'algorithmes qui vont vampiriser petit à petit leur marge. On assiste à la destruction du lien social avec la prolifération de ce qu'on appelle ces dark kitchens. Il n'y a plus de salles, il n'y a plus de serveurs, Il y a juste une usine finalement désincarnée. Mmh. Et quelle hypocrisie aussi de la part de cette gauche métropolitaine qui se dit progressiste, mais finalement dont la flemme de cuisiner nourrit un petit peu une forme d'esclavage moderne où ce sont des gens qui vivent dans des conditions précaires, qui pédalent sous la pluie pour un pourboire. Et donc on prétend donner du travail, alors qu'en fait, en réalité, on cautionne une exploitation.
Oui, d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que, je crois, 98% des livreurs étaient d'origine immigrée ou immigrés eux-mêmes, avec, je crois, 60% de clandestins là-dedans. Hein. Mais les chiffres de cette domination en général dont vous parlez sont assez frappants.
Oui, ils sont glaçants parce que la restauration rapide a pris le pas sur la restauration traditionnelle dans l'économie de notre pays. McDonald's France ne cesse de s'étendre, KFC grignote du terrain, la chaîne Otakos, qui est vraiment le symbole aussi du gras, du mou, etc., vise 600 restaurants d'ici 2029. Donc l'identité gastronomique française, c'est-à-dire le repas partagé à table, s'effondre face au stacking, à la déstructuration des repas.
Vous voyez tout de même des signes de réveil chez nous, notamment avec le retour en grâce des bouillons.
Oui, c'est un signe d'espoir. Les bouillons refont floresse. C'est une forme de retour aux sources. Le concept remonte aux années 1850 avec Pierre-Louis Duval qui servait des plats simples aux ouvriers. Et aujourd'hui, ils connaissent une renaissance institutionnelle et même une expansion globale. On a le bouillon Pigalle, notamment, qui a rouvert il y a quelques années. Et parallèlement, le monde des restaurants routiers, lui, est en péril. Leur nombre a été divisé par 10 en 60 ans, alors qu'ils incarnaient finalement notre cuisine de terroir et de tradition.
Alors, Victor, pour conclure, face à cette crise qui touche le secteur depuis 2024 ?
Eh bien, je lance un défi à nos auditeurs. Soyez entrepreneurs, ouvrez des bouchons, ouvrez des bouillons, ouvrez des restaurants routiers. Notre gastronomie regorge de plats simples qui nous relient à notre terre. C'est finalement le meilleur contrepoids culturel qu'on peut faire au développement de la malbouffe. Et je pense que le relèvement de notre civilisation peut passer aussi par l'assiette.
Et oui, et écoutez, déjà, reconsommons français en France, on verra ensuite pour l'export, mais c'est vrai que, comme vous le dites, on a plein de ressources, tâchons de les mettre le mieux possible en valeur. Merci beaucoup Victor Robert pour cette chronique étonnante et intéressante à la fois, et on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Prochaine. Ouais. Bonjour Gilles.
Et vive l'assiette. Alors, bonjour chers auditeurs.
Alors aujourd'hui le Sénat examine la proposition de loi de Bruno Retailleau sur l'entrisme islamiste.
Oui, c'est d'ailleurs le titre en page intérieure du Figaro. Claire Conruit écrit que le texte porté par le Vendéen est arrivé ce mardi au Sénat quand celui de l'actuel premier flic de France, entre guillemets, est actuellement au Conseil d'État et examiné dans les semaines à venir. Alors certains glosent sur la coexistence de ces projets législatifs qui partagent une même thématique liée à l'entrisme religieux. À la présidence LR, on a cette explication, c'est le syndrome des ministres de l'Intérieur, effacer systématiquement la trace de leurs prédécesseurs. Surtout quand un vrai écart idéologique les sépare, poursuit-on. Un proche de Bruno Retailleau relève les récents propos de Laurent Nunez qui, en avril dernier, souvenez-vous, lors d'un déplacement à la Grande Mosquée de Paris, assurait vouloir contribuer à mieux faire connaître l'islam. Alors, de quoi faire réagir à l'époque le sénateur vendéen ? Ce que l'on attend d'un ministre de l'Intérieur et des cultes est qu'il garantisse le libre exercice des différentes confession en France, certainement pas de faire la promotion de tel ou tel culte.
En fait, Laurent Nunez veut garder la main avec son contre-projet.
Oui, alors selon Lucas Hélin dans le Figaro, du côté de la place Beauvau, on dit que ce projet est bien dans les cartons depuis plusieurs mois. Laurent Nunez ne s'est d'ailleurs pas privé de taxer d'œuvres inachevées la proposition de son prédécesseur qui ciblerait seulement l'entrisme islamiste. Pour autant, écrit encore le journaliste, on se défend de tout bras de fer entre anciens ministres de l'Intérieur. Il n'y a d'ailleurs aucune animosité entre les deux hommes qui s'entendent plutôt bien. Des deux côtés, on s'engage ainsi à ne pas mener une bataille rangée. Laurent Nunez sera sur les bancs de l'Assemblée nationale prêt à défendre son projet et voir si un consensus peut se dégager ou si le sujet devient inflammable. Affaire à suivre.
Et que se passe-t-il en Espagne, dans certaines régions du côté des droites ?
Alors c'est le quotidien Les Échos qui l'écrit. Les droites espagnoles resserrent leurs liens et préparent le terrain pour un futur gouvernement de coalition. Les négociations menées à l'échelle des régions entre les conservateurs du Parti Populaire et les ultras de Vox qui se sont tenus en Extrémadure, en Aragon et en Castille sont en train de donner le ton. Car le concept de priorité nationale vient de faire son apparition. Les signataires reconnaissent laisse la priorité aux personnes ayant la nationalité espagnole lors de l'attribution de services ou de prestations sociales par les administrations régionales. Ainsi, le chef de Vox, Santiago Abascal, jubile et claironne l'importance de mettre les Espagnols d'abord. Cela ne se fera, se fera tôt ou tard, dit-il. Personne ne comprend que les Espagnols soient discriminés dans l'accès aux aides et aux logements sociaux.
Et puis, vous voulez revenir sur une information donnée hier par Louis Rigaudière dans la Zone Libre.
Oui, alors selon les informations du Parisien et de Boulevard Voltaire, je vous confirme que l'émission politique L'Heure de Vérité, après 30 ans d'absence, reviendra à la rentrée sur France 2, animée par Caroline Roux, et aura comme chroniqueur Eugénie Bastier, transfuge de CNews. Mmh. Alors, on ne sait pas encore si elle restera sur Europe 1, mais également, il y aura Marc-Olivier Fogiel de RTL et Benjamin Duhamel de France Inter. Étienne Jernel du Point et Élise Lucet pourraient, quant à eux, se joindre à l'équipe dans un quatrième rôle ou comme joker des personnalités précitées.
Et vous savez s'ils reprennent la musique de Pink Floyd ou Beatles
voilà. J'espère.
Je suppose que la présence d'Eugénie Bastier, quand même, ne doit pas plaire à tout le monde.
Oui, alors une seule journaliste de droite parmi 5 autres classées au centre ou à gauche, ce serait déjà trop pour certains. Après France Info, c'est maintenant France 2 qui débauche chez CNews, a ainsi tweeté le député d'extrême gauche Thomas Porte, visé par une plainte pour apologie de terrorisme. Et Bolloré place ses pions un peu partout pour faire avancer son agenda raciste et réactionnaire, indigne du service public audiovisuel. Et la journaliste du Figaro de lui répondre du tac au tac: je ne suis le pion de personne, contrairement à vous, qui êtes le petit soldat d'un mouvement politique qui a fait du mépris des journalistes sa marque de fabrique. Mmh. Voilà, c'est bien envoyé. Alors, faut-il voir dans l'arrivée de Eugénie Bastier sur France 2 un premier effet de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, écrit Jean Caste sur le site de Boulevard Voltaire? Peut-être. L'annonce de cette embauche survient en effet la veille de la publication du très attendu rapport à l'oncle. Un heureux hasard que d'aucuns trouvent bien étrange. D'ailleurs, je vous signale que c'est Louis Rigaudière qui me l'a envoyé ce matin. Le rapport est édité. Tout le monde, tout Français, peut lire ce rapport sur le site de l'Assemblée nationale.
Et puis vous voulez nous parler de la disparition d'une comédienne.
Oui, alors je ne sais pas si le nom de Claire Maurier vous dit quelque chose. Vous êtes peut-être trop jeune,
oui,
Alexandre.
Un petit peu, désolé.
Mais elle est décédée ce dimanche à 97 ans, a annoncé son mari. Alors je ne sais pas quel âge a son mari, à l'AFP. Alors moi j'aimais beaucoup cette actrice. C'était une actrice entrée au conservatoire à 16 ans et elle avait des airs un peu de Léa Massari. Et plus elle vieillissait, elle ressemblait un peu à Maria Pacôme. Alors vous lirez son portrait signé Nathalie Simon. C'est la seule d'ailleurs dans la presse ce matin qui en fait état, dans le Figaro. Claire Maurier s'est faite remarquer en 59, en Mère cruelle d'Antoine Douanel, dans Les 400 coups. Vous avez vu Les 400 coups de François Truffaut, mon cher Antoine?
J'aimais pas ce
Alexandre.
Film, alors.
Moi, je m'appelle Alexandre, moi.
Oui, oui. Ben, vous l'avez pas vu? Franck, vous l'avez vu, bien sûr.
Oui, bien sûr que je l'ai vu, mais j'aimais pas trop Antoine Douanel. Je la préférais
Jean-Pierre
dans...
Jean-Pierre Léo.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est grâce à ce film qu'elle franchira le tapis rouge à Cannes à 28 ans, vous le savez, puis c'était l'époque où il y avait encore Cocteau qui prenait par la main le petit Léo. Et alors, Gilles Grangier lui donnera un rôle à sa mesure dans La cuisine au beurre. Elle incarne la femme à la fois de Bourville et de Fernandel. Je ne sais pas si Franck peut nous envoyer les photos que je lui ai envoyées. Deux monstres sacrés on les voit, oui, voilà, c'est magnifique. Et on les voit... Alors, je suis perdu.
Oui, c'est ça, de monstre sacré de la comédie française.
Voilà, et on la voit aussi, alors...
Le réalisateur avait remarqué qu'elle prenait bien l'accent du Sud.
Elle était complètement indirigeable, confiera-t-elle en 2016 lors d'une exposition à la Cinémathèque de Martigues, sur ce film considéré comme le plus grand succès du cinéma français avant La Grande Vadrouille. Mais Claire Maurier jouait aussi sur le registre de la comédie, autant d'ailleurs que sur le registre dramatique. On la voyait aux côtés de Pierre Mondy, par exemple. On la verra en Mère râleuse de Jean-Pierre Bacri dans la pièce Un air de famille en 94, puis son adaptation à l'écran par Cédric Clapiche en 96. Mais vous l'avez sans doute vu dans, alors je parle aux plus âgés, dans des séries télévisées comme la mythique Les 5 dernières minutes, en passant par Vive la vie. Moi, je regardais ça quand j'étais petit, en 66, à Fête comme chez vous. Ça, c'était M6 en 2005. Voilà, bien, au revoir, Claire Maurier.
Et le fabuleux destin d'Amélie Poulain,
oui,
où elle a le rôle de Suzanne. Enfin, bon, il y en a des dizaines et des dizaines.
Exactement. Mais c'est une femme qui avait un tempérament et qui se montrait pas tellement... Vous savez, aujourd'hui, on est très pipolisé. Et elle a été plutôt en retrait et c'était tout à son honneur.
Zone libre.
Zone libre.
C'est vrai qu'il y a quand même ces acteurs, même ces chanteurs de l'ancien temps, quelque part. Je pense même, par exemple, à une personne comme, tout simplement, comme Mireille Dumas, qui...
Elle n'a pas 97 ans non
ouais,
plus.
Ouais, non, mais je pense qu'elle en a bien 80, bien pesé quand même.
Peut-être pas, elle doit avoir 75, 76, pas plus. Mais vous savez... parfois,
qui n'ont pas cédé en tout cas à la populisation.
Oui, voilà. Et puis surtout, moi, parfois, je pense qu'ils sont toujours vivants alors qu'ils sont déjà morts.
Oui, c'est un peu triste. Même,
72, Mireille Dumas.
Seulement
oui, ouais.
Ah bah tiens,
oui.
Ok. Ah, bah,
vous croyez que j'en ai 152 en même temps, donc...
Oui, mais enfin, vous êtes pas... je ne suis pas si loin du compte. Non, vous êtes à 149, c'est ça
Oui, il reste 29 secondes, mon cher Gilles.
Bon, alors, oui, non, je voulais dire que moi, il y a une chose qui m'agace aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes sur X ou sur Instagram, il suffit d'une fois que vous avez regardé une image un peu pipolisée par Paris Match ou des bêtises, vous en recevez des centaines, et aujourd'hui c'est à celui qui va poser le plus qui est filmé, alors pour un petit festival.
Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu le très bon exemple hier avec le Met Gala, où effectivement, alors là c'est un festival démonstration,
ouais, pas
et
très
de
élégant,
superficialité
hein.
Sans élégance. Comme
ben,
et pardon, on me précise que la musique de l'heure de vérité c'était de McCartney.
Oui, je l'ai dit hier d'ailleurs.
On l'a entendu hier si vous étiez à l'antenne.
Oui, voilà, vous n'écoutez pas
Et
Alexandre.
Souvent, je voudrais juste, pour terminer, dire que souvent les comédiens se prennent plus pour des mannequins que pour des comédiens, et qu'on a l'impression qu'ils posent dans des robes ou des costumes complètement excentriques qui leur font défaut d'une certaine manière. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Comme on me le disait hier, la classe, ça ne s'achète pas. Merci beaucoup.
Moi, je parle
Gilles.
D'élégance plutôt que de
merci,
classe.
Merci, Franck. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Mais c'est que, c'est par pitié, c'est musique que je ne suis plus du tout. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Mais avant de vous laisser partir, je voudrais vous demander quelque chose.
Oui, je serai votre porte-parole, voilà. Cher Alexandre. En fait, il n'ose pas vous demander, Alexandre, mais il aimerait bien que vous envoyiez quelques dons à Radio Courtoisie. Faut pas avoir honte, mon petit. Soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne et nous permettre de continuer à défendre vos idées et à garder surtout notre indépendance totale. Un grand merci d'avance.
Merci beaucoup Franck, je m'y perds aussi. Et tout de suite on écoute Rodolphe Kurt, Mélenchon 2027, peut-il faire mieux?
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir ici sur ligne droite Rodolphe Kurt. Bonjour Rodolphe Kurt.
Bonjour cher Alexandre.
Alors je rappelle que vous êtes journaliste à Éléments, mais également que vous l'êtes à Front Populaire, que à côté de ça vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont évidemment Mélenchon, le bruit et la fureur, et c'est sur ce sujet-là qu'on voudrait vous interroger aujourd'hui. Alors évidemment, dimanche soir aux 20h de TF1, Jean-Luc Mélenchon fait son annonce de candidature, mettant fin à 3 ans de faux suspense quelque
faux
part.
Faux suspense, exactement.
Cela étant, moi j'y ai cru quelques instants pour tout vous dire, quand il y avait son « faites mieux », certains sont prêts à prendre la relève, et vous l'aviez d'ailleurs relevé sur vos réseaux sociaux, mais ils citent François Ruffin, Mathilde Panot, Manuel Bompard, affirmant qu'ils souhaitent être remplacés. Pourquoi est-ce que Mélenchon n'a pas été remplacé?
Comment dire, vraiment, l'un des phénomènes, on va dire, politiques des dernières années, on mentionne souvent la montée en puissance du Rassemblement National, c'est aussi la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon. Ne pas oublier que Jean-Luc Mélenchon, lors de sa première candidature à la présidentielle, il fait quand même 11%, ce qui est pas mal. En 2017, il échoue à l'accession au second tour à 600 000 voix près, et en 2022 à 400 000. Comment l'homme qui a échoué à 400 000 voix près pourrait, alors peut-être qu'on est à l'élection où il ne manque plus qu'une marche, l'esquiver. C'est pour ça, moi, ça m'a toujours semblé assez problématique. Les gens qui pensaient qu'il allait, passer le flambeau, j'étais absolument pas convaincu par cela. Et aussi peut-être mentionner que depuis hier, on dit souvent « Ah, il y pense depuis 15 ans », c'est-à-dire lors de sa première élection présidentielle. C'est même en amont qu'il faut remonter, je pense, c'est dès qu'il part du Parti Socialiste, c'est-à-dire en 2008, et qu'il fonde le Parti de Gauche, qu'il pense déjà à la conquête du pouvoir. Bien c'est sûr. Un homme qui a toujours été obsédé par la conquête du pouvoir. Dans ma biographie, le sous-titre, c'est « Portrait d'un révolutionnaire avec un S ». C'est vrai que j'ai différents portraits, le républicain, le tiers-mondiste, etc., etc. Mais par contre, à mon avis, il y a un portrait qui prévaut parmi tous les autres, c'est le stratège. C'est-à-dire c'est un homme qui met tout en place pour accéder au pouvoir. C'est son seul et unique objectif.
Mais d'ailleurs, on voit quelque chose qui est assez impressionnant. Rien que dimanche, dans la journée et dans la soirée, sur les réseaux sociaux, voir la Mélenchon mania, si on me passe l'expression, c'était même impressionnant. On sent un niveau d'organisation chez les, et un niveau chez les cadres insoumis qui est quand même particulièrement développé. Comment est-ce que il a ce, justement ce sort de génie? On sait que Manuel Bompard aussi a une certaine responsabilité aussi dans ce développement du mouvement militant.
Bah, c'est des gens qui font de la politique, excusez-moi du peu, mais tout simplement, moi j'ai vraiment été assez impressionné, c'est vrai, par la machine intérieure de la France Insoumise. Alors oui, d'accord, c'est un mouvement autoritaire, vertical, tout ce que vous voulez, qui marche par cercle concentrique. Bon, quand on voit comment marchent les autres partis politiques, j'ai envie de dire que des fois on n'est pas bien loin, mais oui, c'est une machine faite pour un seul et unique objectif, accéder au premier tour. Et ça aussi, c'est peut-être, j'ai envie de dire, une leçon qu'a apprise Mélenchon, parce que Mélenchon, il était dans les équipes socialistes en 2002. Quand on sait justement que Jean-Marie Le Pen était accédé au second tour dame en le pion, comme ça, à Lionel Jospin. Et donc, bah, il fait les choses dans l'ordre. Et les choses dans l'ordre, bah, c'est d'accéder au premier tour avant de peut-être gagner l'élection présidentielle. Donc, il met tout en place pour le faire. Il a une fusée électorale, on va dire, qui est l'une des plus performantes aujourd'hui. Alors, c'est une fusée électorale un peu spéciale parce qu'elle marche par plusieurs électorats.
Mais il lui-même utilise cette expression un petit peu la tortue, justement, qui avance, qui fait son chemin.
La tortue s'agace,
pour être plus précis. Je voudrais revenir sur un point avant de rentrer peut-être dans la prospective, mais il y a quand même une dimension dans le fait que Mélenchon se représente, c'est évidemment le manque de démocratie interne à la France Insoumise. Alors évidemment, c'est pas mieux dans les autres partis. Cela étant, dans les autres partis, il n'y a pas la prétention, quelque part, démocratique que peut avoir la France Insoumise. La France Insoumise, on a l'impression d'une grande farce sur ce sujet.
Oui, à une époque, on a même parlé d'un mouvement gazeux. C'est vrai qu'ils ont toujours voulu jouer un peu sur une horizontalité qui est complètement contrefaite. Mais comme je vous le dis, c'est un parti politique. Et c'est pas nous... si on se range sous la large catégorie des gens de droite qui allons critiquer justement ce phénomène quasi naturel dans tous les partis. Pour tous ceux qui ont lu les sociologues italiens sur les élites, on sait, notamment Roberto Michels, à quel point à chaque fois qu'il y a une organisation, bah, quelque part on revient sur une logique verticale. Même si vous avez raison de mentionner cela, Alexandre, c'est vrai qu'au sein de la gauche on a toujours aussi fantasmé une organisation horizontale, un peu anarchiste. C'est d'ailleurs des débats qu'ils ont souvent avec Frédéric Lordon, une figure qui est assez intéressante, qui lui revendique la relation horizontale, prise de l'État, etc. etc. Bon, il y a peut-être que moi qui m'intéresse au débat d'extrême-gauche, mais c'est intéressant de voir aussi dans la théorie comment ils ont certaines approches. Et je pense notamment aussi à des mouvements comme Nuit Debout ou ZAD, qui ont montré... comment dire, leur capacité à la mobilisation, à la confrontation avec les forces de police, qui est important pour eux, mais par contre, l'incapacité à déboucher sur une vision, ou en tout cas un projet politique d'envergure pour, comme ils le souhaitent tous, renverser la société.
Oui, on pourrait même parler du NPA, qui lui aussi, de son côté, finalement, beaucoup de problèmes de démocratie interne, on le sait. D'une certaine façon, il y a aussi une nouveauté dans cette élection, peut-être, c'est que Jean-Luc Mélenchon a peut-être le risque de se retrouver face à un de ses anciens... poulain, on va dire, qui est François Ruffin. François Ruffin qui est candidat donc pour la primaire de la gauche. Alors, on sait que ça peut être considéré comme une vaste blague, la primaire de la gauche, mais dans le fond, ça reste en théorie la moitié du PS, peut-être les communistes, les écologistes, et puis quelque part tous les anti-Mélenchon qui ne sont pas des sociaux-démocrates.
Alors moi je pense qu'il redoute beaucoup plus un autre François, et plutôt François Hollande. Parce que justement quand j'ai mentionné au début de notre entretien le départ de Mélenchon du Parti Socialiste en 2008, ça faisait suite justement au fameux traité constitutionnel européen de 2005 pour lequel il s'était opposé.
Bien sûr.
Avec notamment Fabius à l'époque, c'est intéressant parce qu'il pensait que ça lui permettrait de faire un pronunciamento à l'intérieur du Parti Socialiste pour quelque part le dessiller de la voie libérale, troisième voie blairiste, etc. Pour l'amener à nouveau sur une ligne de rupture. Il s'est rendu compte absolument qu'il ne pouvait pas changer l'appareil de l'intérieur. Et à l'époque, il se confronte à un os, c'est déjà François Hollande. Et c'est intéressant parce que François Hollande va revenir tout au long de sa carrière l'homme qui l'a empêché.
Exactement. C'est celui qui met des bâtons dans les roues à Mélenchon à chaque fois. C'est-à-dire que même déjà, je crois que c'est sous Jospin que ça commence.
Exactement, sous Jospin. Hollande deviendra président de la République. Enfin, c'est vraiment à chaque fois l'homme qui revient au moment du NFP. Il me semble, je ne sais plus si c'était Front Populaire ou NFP, quand François Hollande a été élu député de Corrèze. Oui. Ça a été un imbroglio complet aussi. Bien personne, sûr. Il a surpris tout le monde. Parce que justement, François Hollande reste... pour le coup, un animal politique supérieurement intelligent, très habile tacticien, vraiment, il est assez impressionnant là-dessus, au-delà de son bilan politique. Et c'est vrai que, et même lors, on va dire, des querelles estudiantines, ils étaient opposés dans des syndicats opposés de gauche. Donc vous voyez que c'est vraiment l'homme qui revient et c'est sa némésis, on pourrait dire.
Exactement. Et alors, autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est peut-être sur la stratégie de campagne de Jean-Luc Mélenchon. En l'occurrence, on sait qu'il y a toujours ce côté où les insoumis commencent doucement, commencent à s'ébattre dans les sondages et finissent finalement très haut à la fin des fins. D'ailleurs, tant dans les résultats que dans les sondages, ils arrivent toujours à certains sommets quelque part. Dans le fond, est-ce que Mélenchon peut encore se poser, comme il le faisait en 2017 et en 2022, comme un rassembleur, alors qu'il est l'homme politique le plus détesté des Français ?
Oui, alors là, c'est peut-être, le contre-coup de sa stratégie du socle. Stratégie du socle, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, comme je vous l'ai dit, par le palestinisme, par exemple, avec une figure comme Rima Hassan, l'antifascisme avec Raphaël Arnaud, je crois que nos invités vont en discuter largement, après Li Bagayoko, c'est vrai que là, il arrive, à cause de son électorat segmenté, à les mobiliser. Ça, c'est important de mobiliser toujours son socle granitique. Et après, comme vous le dites très bien, il y a... aussi cet inconnu de l'élargissement. Il en aura quand même besoin, je pense, pour accéder au second tour. Et là, il y a la fameuse théorie du quatrième bloc, théorisée justement par Manuel Bompard, c'est-à-dire faire sortir une partie des abstentionnistes de leur torpeur. Alors, comment les faire sortir de leur torpeur électorale, on va dire ? C'est peut-être en revenant sur des logiques un peu plus populistes. On l'a vu, par exemple, dernièrement, il y a l'Institut de la Boétie, qui est le centre de formation intellectuelle de la France Insoumise, qui produit des fiches, des travaux, des livres aussi, il faut le reconnaître, c'est assez impressionnant. Ils ont par exemple fait une conférence sur la lutte interclassiste entre patrons. Là, Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'il s'oppose au grand capital, vous savez, financiarisé, dématérialisé, etc.
D'ailleurs, dans son avance de candidature, il y va franco contre Patrick Pouyanné, le patron de Total. Enfin, c'est d'ailleurs presque ad hominem, c'est étonnant.
Exactement, mais par contre, il se fait le petit défenseur justement des TPE, PME.
Et c'est quelque chose qui naît dans le discours insoumis, qui n'existait pas auparavant, mais c'est depuis 2 ans surtout que c'est le cas.
Vous avez raison, mais même en 2017, je dirais. Parce que cette logique, on va dire, d'alliance de classe, avec toujours une lutte assez verticale quand même prononcée, justement, elle est parfois un peu critiquée par les matérialistes un peu purs et durs, parce que on est dans une perspective où on parle de peuple et non plus de prolétariat, de travailleurs, etc. Et là-dessus, c'est peut-être intéressant de mentionner à quel point le continent sud-américain et notamment le chavisme a imprégné vraiment le mélenchonisme, parce que justement, Chavez, c'est... l'oligarchie contre le peuple, contre les laissés pour compte. Chavez avait énormément joué là-dessus.
Mais vous disiez justement que Mélenchon veut sortir aussi de cet aspect bloc élitaire, bloc populaire qui le dessert dans le fond. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le bloc populaire, qu'on le veuille ou non, ça reste beaucoup plus le Rassemblement National que la France Insoumise, qui est dans un bloc presque sous-populaire, si je reprends l'expression de l'appel prolétariat.
Alors disons que là, c'est un peu ma projection dans les années à venir, si j'ai un peu de temps, parce que je pense que c'est intéressant de voir aussi la
prospective.
J'ai
3-4 minutes, allez-y.
Parfait. Oui, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, depuis 2017, on est revenu sur cette fameuse classification réalisée par Jérôme Sainte-Marie de bloc populaire, bloc élitaire, qui est assez intéressante, et qui favorise, in fine, le RN, Marine Le Pen, peut-être demain Jordan Bardella, et aussi Emmanuel Macron, en tout cas le candidat du Bloc central. Et vous en souvenez peut-être dans le livre d'après-campagne de 2023, il me semble, d'Éric Zemmour. Zemmour revenait sur le débat organisé sur BFM TV, vous savez, entre Mélenchon et Zemmour. Et à l'époque, les deux se mettent d'accord parce que ils le savent très bien qu'en réalité, ça les dessert, cette opposition Macron-Marine Le Pen, parce que c'est une opposition élite contre peuple, quelque part, donc c'est une élite qui les dessert. Donc ils se disent, il faut qu'on reforme cette opposition bloc de gauche, bloc de droite, et on voit que c'est quelque chose peut-être qui est en train de réémerger. Aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans un deuxième cycle du populisme, mais par contre qui reprend quelque part aussi cette opposition droite-gauche. C'est vrai que le moment 2017, il faut jamais oublier de le rappeler, Macron, va émerger sur une logique à l'époque très dégagiste, populiste. C'est le fameux système UMPS dont il faut se débarrasser, etc., etc. Je pense qu'on est toujours dedans. Il faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant ça y est, on est revenu.
On peut voir avec même un Donald Trump par exemple. Exactement. Qui en fait finalement est un populiste, mais un populiste qui va ramener beaucoup beaucoup de conservateurs avec lui et qui va créer sa propre élite, quoi qu'on en pense.
Exactement. Et aussi, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il voit très bien aujourd'hui qu'on est à la convergence de trois crises. Une crise sociale, pas besoin de revenir sur l'international, le détroit d'Ormuz qui est en train de se passer, notamment avec le prix des énergies. Donc là, première crise, la crise sociale. Deuxième crise, c'est la crise de régime. On a aujourd'hui une 5e République complètement dévitalisée. Je vais pas revenir sur le gouvernement des juges. Juste après moi, il y a Pierre Gentillet qui a largement glosé sur le sujet bien mieux que moi. Donc, on a une 5e République complètement dévitalisée. Puis, on a aussi cette crise politique où on a trois blocs de plus en plus hermétiques, où on voit que justement des électorats pivots qui peuvent basculer d'un côté ou d'un autre, c'est de plus en plus rare à trouver. Donc on a ces trois crises, et là, c'est une formule qu'a parfois...
Mélenchon, pardon, ajouterait la crise écologique aussi, mais...
Exactement, ça aussi c'est intéressant, alors même si je pense que c'est beaucoup plus un argument politique pour mobiliser une certaine base. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que justement, sur... cet interrègne, parce qu'on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle politique et au début d'un nouveau, il y a un peu ces monstres qui peuvent se créer, comme disait très bien Antonio Gramsci. Et je pense que là-dessus, justement, Jean-Luc Mélenchon veut faire réémerger cette logique d'affrontement dual, bloc de gauche, bloc de droite, qui le servirait, parce que ça lui permettrait de prendre, si vous voulez, le lead, excusez-moi pour l'anglicisme, mais en tout cas, la tête de gondole, justement, de ce mouvement de résistance. Dimanche, il y avait deux matchs, en réalité. Il y avait l'annonce de sa candidature sur TF1, et juste à côté, vous aviez un entretien sur Brut de 2 heures de Jean-Luc Mélenchon, qui était un peu plus intéressant, parce que là, on avait un peu plus de politique. C'est à ce moment-là où il qualifie Jordan Bardella de promoteur de la guerre civile et de péténiste. Parce qu'il y a vraiment cette idée de revenir comme à l'entre-deux-guerres sur une logique Hitler ou le Front populaire. Ouais. C'est vraiment souvent qui revient. Vous savez, c'est les innombrables vidéos
fatigantes. C'est les fascistes contre les antifascistes. Ouais, c'est tout ces...
Ah, si vous regardez Blast, allez voir nos auditeurs qu'ils aillent voir la chaîne YouTube de Blast.
Je vais régulièrement, vous en faites pas. Effectivement, c'est un carnage.
Il y a Johan Chapoutot qui se répand à chaque fois dans des vidéos pour faire des parallèles hasardeux qui tiennent absolument pas. En revanche, je pense que c'est vraiment intéressant parce que peut-être qu'on va voir dans les années à venir la France insoumise vraiment se désirer un peu un destin comme un parti léniniste d'avant-garde sur une masse résistentialiste avec un gloubi-boulga un peu de tous ces mythes politiques, du palestinisme, de l'antifascisme, de la Nouvelle France, de la résistance au bruit des bottes, etc., etc. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense qu'il a fait le deuil de sa victoire au second tour, en tout cas, donc je pense qu'il veut tout faire pour déboucher sur cette nouvelle situation, ou en tout cas cette nouvelle reconfiguration politique d'un affrontement clair et pur, bloc de gauche, bloc de droite.
On va en finir là. Merci beaucoup, Rodolphe Carte. On vous réinvitera avec un petit peu plus de temps pour développer tous ces sujets. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. La question qui se pose désormais, c'est comment nous soutenir ? C'est ce que vous vous demandez sans doute.
Ah oui, à chaque fois que vous me donnez la parole, c'est pour ça, hein, mon cher Alexandre. C'est pour demander des sous, puisque vous n'osez pas le faire vous-même, je le sais. En même temps, je comprends. Soutenir.rc.fr. Attention, c'est très important. Si vous considérez que le travail de Radio Courtoisie est important, s'il vous parle, si vous considérez qu'il aide à défendre vos idées, eh bien, rendez-vous sans délai sur soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne, une participation en fonction de vos besoins. Nous vous remercions énormément par avance.
Oui, voilà, on a déjà eu même ce matin un don dans le chat sur YouTube, ce qui arrive de temps en temps et ce qui est toujours très très appréciable. Merci, vous pouvez aussi le faire donc sur YouTube, votre don. Mais alors la question, c'est désormais, quel est le programme du jour, Franck ?
Eh bien, dans quelques secondes, l'histoire du Groenland nous sert-elle à comprendre les enjeux contemporains ? Dans les mardis de la mémoire d'Anne Collin, à midi en direct, les Libres Journal des Beaux-Arts, dirigé par Michel Colombin, qui recevra Philippe Rouget. À 14h, le Libre Journal de l'école de Florence Leroux et Hervé Roland, où il sera question de la belle aventure de l'Académie musicale de Liès avec sa directrice et les lycéens. 16h, travaux et flâneries. Non, je fais des lapsus insupportables aujourd'hui. Il va être content, Richard. Je vends bien son émission Travaux et flâneries, un 1er mai contrasté dans planche cassé-bulle, dirigé par Richard de Cesse. 16h30, le RC Mag. 17h, populaire. Vous avez dit populaire. 17h30, oui, non, mais j'y arrive pas. Hein, vous savez, c'est vous. qui m'impressionnait. Et nous restons courtois à 17h30, 19h30, le libre journal de la francophonie heureuse d'Antoine Assaf, 21h30, entre crise de la représentativité démocratique et limite de son influence mondiale, et à 23h, la soirée musicale de Virginie pour les larmes du ciel.
Voilà, et puis on va vous reprendre l'antenne très vite.
Oui, Franck, s'il vous plaît.
Moi aussi, je la rends. Et je vous dis rendez-vous tous à demain, 7h, ici sur Ligne Droite, chers auditeurs.
Et en pleine forme.